Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molliman.
Environ 7000 enfants déplacés sur les quelques 9500 qui sont hébergés au site des Kingozé en Ituri ne vont pas à l'école. Ces élèves ont déjà totalisé 4 ans sans étudier. Chiffre publié hier à la rentrée scolaire par le comité local des déplacés. Cette structure plaide pour la restauration de la paix dans leur milieu d'origine. Conflit interethnique entre les peuples Teke et Yakao Maïndombe. 3 personnes, dont 2 militaires, sont mortes dimanche dernier. D'après le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Kwilu, ces personnes ont été prises dans une embuscade tendue par des inciviques. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Moïse Nzangi, ministre congolais de l'enseignement supérieur et universitaire. Il vient de boucler une mission de 5 jours à Butembo. Il nous parlera de l'objet de sa mission dans cette partie du Nord Kivu. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a pris part hier lundi au sommet de l'adaptation en Afrique tenu à Rotterdam aux Pays-Bas. Au cours de ses assises, le président de la République a rappelé au monde ses responsabilités face au changement climatique. Ces assises ont été organisées par le Centre mondial de l'adaptation en collaboration avec l'Union africaine, la Banque africaine de développement BAD, le Fonds monétaire international FMI, l'Initiative d'adaptation pour l'Afrique et le Forum sur la vulnérabilité climatique. C'est en perspective de la COP27 prévue dans 2 mois en Égypte. Grâce à Mouzati, nous dit un peu plus.
Devant plusieurs chefs d'État, Félix Tshisekedi a rappelé à la communauté internationale et aux pays pollueurs que la République démocratique du Congo reste un pays solution pour aider le monde à résister au changement climatique. Pour lui, la RDC est consciente de sa responsabilité pour le présent et l'avenir de l'humanité face au changement climatique. Il a cependant regretté l'absence des pays pollueurs. Pour Tshisekedi, l'Afrique a besoin des ressources qu'elle peut obtenir pour lutter contre les changements climatiques. Le président de la République a précisé que l'Afrique a besoin de 36 milliards de dollars par an pour faire face aux impacts négatifs actuels du changement climatique. Elle n'aperçoit que 6 milliards. Elle est donc doublement lésée par le changement et le financement climatique. Signalons que plusieurs autres dirigeants africains et du monde ont pris part à ces sommets, notamment l'actuel président de l'Union africaine et président du Sénégal, Macky Sall, Akufo Addo du Ghana ou encore Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général de l'ONU, pour ne citer que ceux-là.
Et puis l'appui du gouvernement américain au processus électoral en RDC passe de 10 à 13 millions de dollars américains. Cette annonce a été faite ce mardi dans un communiqué de presse de l'ambassade de ce pays ici à Kinshasa. Ce fonds est destiné à appuyer le processus politique transparent, crédible et inclusif en République démocratique du Congo. Les États-Unis continueront de travailler en partenariat avec le peuple congolais au moment où celui-ci se prépare à participer à des élections transparentes, crédibles et inclusives pour élire ses dirigeants nationaux, précise ce document. D'autres détails à ce sujet avec Jean-Claude Lokidile.
La diffusion de rapports précis et en temps voulu sur le processus électoral de la RDC par des observateurs indépendants et objectifs permettra aux citoyens de comprendre, de participer et de faire confiance à leurs élections. L'administration américaine se félicite de l'engagement du président Tshisekedi à organiser les élections à temps. Le soutien au renforcement des élections et des processus politiques contribuera à la tenue d'élections plus libres, plus justes et plus inclusives en RDC, ainsi qu'à l'établissement d'une culture de réforme électorale démocratique. Les États-Unis ont également engagé des enveloppes supplémentaires pour renforcer l'éducation des électeurs, soutenir des processus électoraux inclusifs et pacifiques, lutter contre la désinformation et fournir une assistance technique en vue des élections de 2023 en RDC. Ce projet continuera à appuyer la Commission électorale nationale indépendante et les organisations de la société civile jusqu'en novembre 2024. Il vise à former, encadrer et développer des ressources organisationnelles en faveur du personnel électoral et des agents électoraux ainsi qu'à fournir une observation et une analyse post-électorale.
En Ituri, environ 7000 enfants déplacés sur les quelques 9500 qui sont hébergés au site de Kingozé ne vont pas à l'école. Ces chiffres ont été publiés hier lundi lors de la rentrée scolaire par le comité local des déplacés. Selon cette structure, la plupart de ces enfants ont déjà totalisé 4 ans sans étudier, une situation qui inquiète leurs parents. Ils plaident pour l'instauration d'une paix durable pour leur permettre de retourner dans leur milieu d'origine. Isaac Remoyopi.
De nombreux enfants scolaires d'ici de Kigonze passent leur journée au centre de la ville de Bounia à Mandié. D'autres aident leurs parents dans les petits commerces pour la survie de la famille. Selon le secrétaire du site, moins de 30% de ces enfants vont à l'école. Une déplacée rencontrée sur place affirme que ses deux enfants ont déjà passé 3 ans sans étudier faute de moyens. Elle exprime son inquiétude.
3 enfants ont l'âge scolaire, mais ils n'étudient pas. Depuis 3 ans, je n'ai pas de moyens de les scolariser. Je réalise les travaux journaliers pour nourrir mes enfants. Inscrire les enfants et payer les frais scolaires, c'est difficile.
Le comité local des déplacés indique qu'il y a 2 ans, le gouvernement provincial avait construit dans les sites 6 salles de classe qui accueillent à peine 300 élèves. Cette structure demande aux autorités de construire d'autres bâtiments pour accroître la capacité d'accueil de cette école, mais surtout de rétablir la paix dans leurs entités. Chave Marata, secrétaire du site.
Les enfants qui étudient représentent 30%. Nombreux n'étudient pas. Ils n'ont pas trouvé des places dans notre école. Et puis, ces enfants sont devenus délinquants. Nous demandons au gouvernement d'ajouter le nombre de salles au site pour que les enfants ne continuent pas d'errer dans les rues.
Signalons que la rentrée scolaire n'a pas été effective également dans plusieurs villages dans les territoires des Djougou. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au sud Kivu, cette rentrée scolaire est encore hypothétique dans la plupart des écoles du groupement de Bidjombo dans le haut plateau du territoire d'Uvira. La société civile locale fait état d'une présence massive des militaires, des forces conjointes FRDC et l'armée burundaise dans la région. Une situation qui inquiète les parents qui hésitent à envoyer leurs enfants à l'école. Fiston Goma.
La situation est la même à Masango, à Mueta, Magunda, Mugogo, Kiziba et Katanga, où aucune école n'a ouvert ses portes hier lundi. Le président de la société civile de Masango, Moïse Munenge, explique que le militaire de la force conjointe serait à la recherche des rebelles burundais et des miliciens Maïmaï qui seraient cachés au sein de la population. Les enseignants s'étaient bien préparés pour cette rentrée scolaire, mais le fait que les enfants sont en train de voir des militaires qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ici, ils ont peur d'aller à l'école. Les FRDC et les militaires burundais sont très nombreux ici et dans plusieurs villages. Les FRDC rassurent que la présence de ces militaires vise à sécuriser les populations civiles contre l'activisme des groupes armés dans la région. Plus loin, dans le haut plateau de Fizi à Minembwe, le président de la société civile signale que la rentrée scolaire a été effective hier lundi dans toutes les écoles de Madegou, dont à l'Institut Isoko de Ujiafi. Le sous-prophète de l'EPST, Paul Rohanga, a effectué un tour dans ces écoles hier avec la MONUSCO, le FRDC, l'ANR. Seules les écoles de Tulambo et Kamombo plus loin n'ont pas ouvert les portes. Ces villages sont vidés de leurs habitants qui avaient fui vers le Minembwe centre pendant les hostilités. D'Uvira Fiston Mamayabala, Radio Kapi.
À Lubumbashi, par contre, la rentrée des classes était effective hier lundi dans plusieurs écoles, tant publiques que privées. Une ambiance de retrouvailles entre les anciens et les nouveaux élèves. À côté de ce tableau se trouvent aussi les élèves qui ne se sont pas déplacés de leur maison pour des raisons diverses. À Malembankoulou, cependant, les enseignants ont commencé à toucher leur salaire. Jean Gandou.
À partir de ce lundi, le bleu et blanc sont visibles sur différentes artères de la ville. Certains élèves, par souci de démarrer en même temps que les autres, ne se sont pas gênés d'enfiler les anciens uniformes, faute des mieux. À côté de ces élèves, visiblement ravis de reprendre le chemin de l'école, se trouvent d'autres qui n'ont pas pu rallier leurs établissements scolaires. Pour les uns, les parents n'ont pas encore apprêté le nécessaire, notamment les uniformes et autres fournitures scolaires. Et pour les autres, les parents n'ont pas encore eu l'argent pour payer les frais de réinscription. Parmi ceux qui attendent, se trouvent aussi ceux qui ont échoué à la dernière édition de l'examen d'état et qui ont du mal à se faire inscrire ailleurs au regard de frais exigés entre autres dans les écoles du secteur privé. Pendant ce temps, à Malembankoulou, dans la province du Olomami, depuis ce lundi, les écoles sont désertes. Les détails avec Claude Kassongolo de la société civile locale.
Les enseignants s'étaient décidés de ne pas aller répondre à leur poste par manque de leur salaire qui avait fait 5 mois. Et aujourd'hui, à l'heure qu'on parle, presque tous les enseignants de Malembankoulou centre sont sur le point de paye. La société civile se réjouit du système adopté par Caritas de payer les enseignants en coulou par le système des mandataires, car le système de paye individuel est empêché le respect du calendrier scolaire.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Des nouvelles violences dues au conflit interethnique entre les peuples Teke et Yakao Maindombi, précisément dans les territoires de Kwamout, ont fait dimanche 4 septembre dernier 3 morts, parmi lesquels 2 militaires, vers le village Mibé, sur la route nationale numéro 17. C'est le député national Guy Moussomo qui a livré cette information lundi à la presse. Selon le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Kwilu, ces militaires déployés pour pacifier ces coins ont été pris dans une embuscade tendue professionnellement par des inciviques. Le professeur Jean-Claude Bouanganga rassure que des dispositions seront prises pour résoudre cette situation et pacifier la route nationale numéro 17. Irène Bouma.
Selon Guy Moussomo, député national élu de Kwamout, c'est lors des affrontements entre les assaillants armés présentés comme les membres de la tribu Yaka et les militaires dépêchés par le gouvernement pour rétablir la paix à Kwamout que ces 3 personnes ont été tuées dimanche, non loin du village Mibé, situé à près de 40 km de Massiambio sur la route nationale numéro 17.
Ce que j'ai appris, on a tué des militaires et les fils du chef Massiambio vers Mibé.
Ces assaillants opèrent de façon professionnelle, a alerté le ministre provincial de l'Intérieur du Kwilu qui indique que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour pacifier cette route. Le professeur Jean-Claude Bouanganga.
J'ai moi-même envoyé un peloton organique qui malheureusement a connu quelques difficultés. Il y a eu une embuscade qui a été tendue par des inciviques à nos militaires. Je crois que ce conflit commence à devenir sérieux. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour sécuriser la nationale numéro 17.
Il s'est rappelé que d'autres hommes en uniforme, dont les policiers et les soldats, ont déjà été tués lors des différents affrontements liés à ces conflits à Kwamout. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et puis la sénatrice du Tanganyika, Vicky Katumwa, s'est dit très préoccupée par la recrudescence du banditisme urbain dans la ville de Kalemie. Dans une interview, c'est lundi à Radio Okapi, à Kalemie, la sénatrice souligne que la police a besoin de 4 000 $ américains pour la réparation de ses véhicules en panne. En outre, elle a besoin de renforcer ses effectifs et cela va permettre à la police de lutter efficacement contre le banditisme urbain à Kalemie. La sénatrice du Tanganyika, Vicky Katumwa, est au micro de Paulin Munanga.
Le premier problème, c'est le manque de moyens. La police est vraiment démunie. La police est dotée de 3 jeeps, dont toutes les 3 jeeps sont en panne. Et j'ai posé la question, qu'est-ce qu'il fallait pour réparer ces jeeps? La police m'informe qu'il leur faut seulement 4 000 $ que la province ne sait pas mettre à leur disposition pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et la dernière réponse qu'on a donnée à la police, c'est que les autorités provinciales déclarent n'avoir pas de moyens pour aider la police. Ça, c'est très grave. Le second problème, c'est la diminution des effectifs au niveau de la police. Là, ce n'est pas un problème local, c'est un problème qui nécessite une attention soutenue du pouvoir central pour voir la possibilité, soit on recrute des policiers. Je pose la question, combien il vous faut? Il me dit, il me faut au moins 1000 hommes. Vous allez juger des gens sous les actes pendant que vous ne leur donnez pas de moyens. Moi, je pense qu'il faut qu'on dote cette police de moyens conséquents pour que la police organise des patrouilles.
Contacté, le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika annonce que le gouvernement provincial prend des dispositions pour doter la police d'un charroi automobile neuf. Et puis, le gouvernement du Kassai Oriental et du Kassai Central s'engagent à mettre fin à près de 20 conflits fonciers qui les opposent. À cet effet, une réunion préparatoire de la bipartite s'est tenue le week-end dernier pour constituer des commissions d'experts pour la descente sur le terrain dans les localités frontalières, afin de récolter les données sur la nature des conflits qui opposent les provinces du Kassai Oriental et du Kassai Central. Dans ce reportage, Esther Ndalafina nous dresse la cartographie des conflits dans ces deux provinces.
La cartographie des conflits rendue publique en 2015 puis actualisée en 2017 par la section affaires civiles de la MONUSCO, le gouvernement provincial et la société civile du Kassai Oriental indique que près de 20 conflits opposent actuellement les provinces du Kassai Oriental et Kassai Central. Les disputes qui opposent les territoires de Kabiakamwanga au Kassai Oriental à celui de Dibaya au Kassai Central viennent en tête avec 9 conflits dont 5 fonciers au niveau des secteurs de Lac Moukamba et Mpemba. On compte 3 conflits conflit de contrôle des ressources naturelles et un seul conflit de contrôle des pouvoirs coutumiers, suivi des territoires de Kabiakamwanga au Kasaï oriental contre celui de Dimbelenge au Kasaï central, avec 6 conflits qui ont rebondi depuis les années 2011, dont 2 conflits fonciers et 4 de contrôle des ressources naturelles au niveau des secteurs d'Ndomba et Lubi. 2 autres conflits opposent depuis 2009 les territoires de Lupatapata au Kasaï oriental et Dimbelenge au Kasaï central, dont un conflit foncier entre les Bakwampuka, les Benakonji, Kabanga et les Mfika dans les secteurs de Mukumbi et Lubi. Les 2 territoires se disputent aussi le contrôle des ressources naturelles. Quelques tentatives de réconflit ont été initiées mais sans succès. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis parlons de ce cri d'alarme des jeunes de la société civile de Yangambi en marge de l'ouverture de la conférence sur la pré-COP 27 ce lundi 25 septembre. Ces jeunes demandent au gouvernement et aux scientifiques réunis à Yangambi de soutenir le projet de construction d'un centre de formation professionnelle moderne qui comprendrait par exemple l'agroforesterie, la menuiserie, l'élevage, la maçonnerie et l'informatique de gestion. Notre envoyé spécial à Yangambi, Paul Matendo, nous en parle.
Cette principale recommandation des jeunes de Yangambi est très lisible sur des banderoles affichées sur les bâtiments de l'INERA. Pour Jean-Paul Bolema, coordonnateur de la société civile de cette localité, les travaux des scientifiques devront intégrer, entre autres, des projets à impact visible.
Et donc nous voulons que, en tout cas, après la tenue de ces assises, qu'on essaie quand même d'aboutir à de réalités visibles qui peuvent montrer en sorte que la communauté riveraine qui vit autour de cette réserve et dans les alentours de cette réserve puisse subir vraiment des conditions normales et durables. Parce que nous, en tant qu'humains de la communauté, nous sommes habitués à exploiter cette forêt, à exploiter. Parce que la vie de l'homme, c'est dans cette forêt-là. Mais aujourd'hui, on dit qu'il faut exploiter de manière durable.
Parmi ces projets, un autre jeune parle justement de la réhabilitation du bâtiment de l'INERA.
La chose que nous vous demandons, c'est vraiment de nous réhabiliter quelques bâtiments déjà abîmés.
Les bâtiments de quoi?
Les bâtiments du ministère que nous voyons ici, de l'INERA, puisque bon, nous voyons qu'avec ça, nous bénéficions quand même. Vous êtes venus exploiter notre milieu. Il faut que nous en bénéficions aussi.
Ces jeunes appellent aussi le gouvernement à intégrer la dimension sensibilisation des habitants de Yangambi sur la protection de la forêt.
Actualité internationale.
Au moins 35 civils ont été tués lors de l'explosion d'un engin artisanal dans le nord du Burkina Faso. Le véhicule des victimes a explosé après son passage sur une mine artisanale entre Djibo et Bourzagan. Il faisait partie d'un convoi de ravitaillement qui partait à Ouagadougou. Il était escorté par les forces de défense et sécurité. 37 autres personnes ont été blessées et transportées dans le centre de santé selon le gouverneur, le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgou.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, ce Moïndo Nzangi, ministre congolais de l'enseignement supérieur et universitaire. Il vient de boucler une mission de 5 jours à Butembo et il nous parle de cette mission dans cet entretien avec Grévis Salomon. Suivez.
Monsieur le ministre Moïndo Nzangi Butondo, bonjour.
Bonjour.
Depuis jeudi dernier, vous êtes à Butembo. C'est quoi le mobile de votre présence dans cette ville?
Comme je vous avais dit, je l'ai dit au meeting, ma visite avait une double mission. La première mission, c'est l'inspection des établissements d'enseignement supérieur, l'évaluation du LMD. Et ma deuxième mission, c'était de venir s'enquérir de la situation sécuritaire de la ville, parler avec les autorités sécuritaires, parler avec la population pour essayer de calmer les jeux pour la suite des événements qui sont passés ici.
Par là de la situation sécuritaire, étant qu'un des élus locaux, comment personnellement vous évaluez ou analysez la situation sécuritaire à laquelle Butembo fait face?
Bon, il faut dire qu'il y a 2-3 jours, elle était très dramatique. On a vécu des événements qui se succédaient. Pratiquement, on a vécu une semaine de non-état dans la ville de Butembo. Et donc, notre responsabilité en tant que membre du gouvernement et ressortissant du coin, nous avons essayé de trouver des parades pour parler avec la population, calmer la situation, parler avec les groupes de pression, parler avec la société civile. Nous avons aussi parlé avec les autorités militaires, les conseils urbains de sécurité pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais aussi pour passer les messages de paix entre les parties. Et nous croyons que ça a été un objectif atteint.
Et bien sûr, lors de votre meeting tenu le jeudi dernier, vous avez parlé de l'ennemi qui insécurise la région. C'est qui exactement cet ennemi de la paix?
J'ai essayé de distinguer des catégories d'ennemis. Il y a les ZADF qui ont pour la première fois attaqué la ville de Butembo en prenant les prisonniers. Il y a aussi les Maïmaï qui, la plupart d'entre eux, s'engagent dans une logique de pouvoir sécuriser la population et le pays. Mais j'ai effectivement passé le message qu'on ne peut pas sécuriser la population sans respecter les institutions de l'État. Donc j'ai parlé avec certains d'entre eux qui sont venus me voir et le message a été très clair pour moi. Il faut absolument que eux s'associent plutôt au FRDC, rejoignent le processus de démobilisation ou de formation militaire, c'est ça qu'on a appelé l'effort de participation locale au processus de paix, pour essayer de régler les problèmes. Sinon, s'attaquer au FRDC, c'est multiplier les problèmes à deux ou à trois, parce que là, on diminue les capacités de protection de la ville. Par exemple, toutes les attaques qui étaient aux alentours de la ville, c'est pratiquement pour essayer d'ouvrir les boulevards pour que l'ennemi entre dans la ville, et c'est ça le message que nous leur avons passé. En tout cas, les groupes que nous avons rencontrés ont compris ce message, on espère qu'ils vont continuer à cette lacée-là.
Vous avez rencontré ces leaders communautaires, mais aussi, comme vous l'avez dit, des groupes de pression. Est-ce qu'on peut espérer au moins à une amélioration de la situation dans la ville de Butembo après ces échanges?
En tout cas, de notre côté, nous avons essayé de baliser le terrain pour que les échanges entre les autorités locales et la société civile à travers tous les groupes soient maintenus, puisqu'on ne peut pas être dans une ville. Le climat que j'ai vu quand j'étais au meeting, c'est que c'était une méfiance totale entre la population et les forces de sécurité, ce qui est inacceptable.
Bien sûr, attaquer pas trop des laissés au pays, il y a la société civile, la coordination urbaine, qui plaide pour l'intégration d'une faculté réservée à la formation, à l'académie militaire. Vous attaquez ministre des tutelles, que pensez-vous de cette proposition?
Dans le cadre du LMD, nous avons intégré, nous appelons la mention sécurité dans le programme pour les études juridiques. Et puis, nous sommes dans un processus pour essayer de ramener toutes les écoles militaires et policières dans le système académique normal pour que tout le monde qui en a le droit puisse y accéder. Bien évidemment, aujourd'hui, la question d'une formation militaire obligatoire est à l'ordre du jour, mais pour cela, il faut une loi. Et je crois que les discussions au niveau du Parlement vont montrer, puisqu'il y a déjà un député qui a déposé une proposition de loi dans ce sens.
Monsieur le ministre, avez-vous un message à lancer à la population?
Ce n'est qu'un message de paix et de vigilance. Je crois qu'on doit être très vigilant, puisque la situation, elle est, à mon avis, dangereuse. Il faut une vigilance tout azimut, mais on doit collaborer avec l'armée, on doit collaborer avec les services de sécurité.
Monsieur le ministre Mwindo Nzangi Butondo, merci.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.